Même chose avec le tiers-monde. On a voulu libérer le tiers-monde contre l'Occident, et le tiers-monde s'est enfermé, soit dans des mouvements sociologiques, soit dans des mouvements religieux qui veulent la liberté de toutes les communautés en oubliant les libertés individuelles. Et dans la foulée de cette réflexion, j'ai constaté que moi-même, en étant enthousiasmée par les mouvements féministes qui ont eu lieu dans ma jeunesse autour de 68 et après, eh bien, ces mouvements féministes se sont très vite sclérosés dans une idéologie commune, souvent, sinon totalitaire, du moins écrasant la singularité de ce que chaque femme veut dire, pour ne voir que l'idéologie de la chef ou telle doctrine plus ou moins liée à des idéologies trotskistes, maoïstes, freudiennes ou autres, mais avec des généralités qui sous-estiment la liberté de la personne. Et je me suis dit que si telle est mon expérience, ma façon d'hériter du mouvement féministe, c'est de m'opposer à ce que j'appelle dans ce livre, de cette trilogie qui s'appelle Le génie féminin, de m'opposer au féminisme de masse en me demandant quel est l'apport des femmes singulières à la liberté humaine au XXe siècle. Est-ce qu'il y en a eu? Et s'il y en a eu, lesquelles? Et comment ces apports-là s'enracinent dans la sexualité féminine? Et à ce moment-là, je retrouverai peut-être quelque chose de commun. Mais de ne pas commencer par l'idée, mais qu'est-ce que toutes les femmes, qu'est-ce que toute la sexualité féminine, en quoi toutes les femmes sont pareilles? Commençons d'abord par nous poser la question, en quoi il y a des individus féminins qui ont essayé d'aller dans le sens du groupe, mais au-delà du groupe aussi, et de féconder le groupe et l'humanité tout entière à partir de leur réalisation singulière. Et c'est pour ça que j'ai pris le terme de génie, qui est un thème provocateur évidemment, mais qui s'oppose justement à l'idée massificatrice dans laquelle s'enferment les mouvements libertaires. Alors, le terme de génie a été employé, vous le savez sans doute, par les Grecs déjà, c'est le terme daimon, puis après les Latins ont traduit ça par génie, pour indiquer un esprit, donc c'est le divin toujours, qui préside à la naissance d'une personne. Alors, si vous avez la chance d'avoir un génie qui préside à votre naissance, vous pouvez être un génie. Ça peut aller bien. Peu à peu, le terme est descendu du divin pour désigner la personne elle-même qui est sous l'influence de cet être divin. Donc, si vous êtes sous l'influence d'un être divin, vous êtes génie vous-même. Vous êtes, par exemple, Michel-Ange, vous êtes Raphaël. Et le terme s'est employé dans ce sens pendant la Renaissance. Ce qui fait qu'une de mes génies féminins, Hannah Arendt, considère que le génie, le terme de génie, dont elle se moque d'ailleurs, est une sorte, je traduis à ma façon, mais c'est le sens de sa pensée, c'est l'atterrissage du divin chez les hommes, sur terre, à un moment, la Renaissance, où on a l'impression que Dieu s'éloigne de nous. Vous savez qu'à la Renaissance, on commence à se poser des questions sur la religion, on décortique les religions, une pensée libre, transreligieuse, parareligieuse ou athée même, ce profil, et donc c'est à ce moment-là que les génies apparaissent, qui sont à l'égal des dieux, ou sinon mieux. Donc elle pense que c'est un atterrissage du divin sur terre pour ne pas mourir en quelque sorte de banalité dans un monde sans dieu. Alors, les génies féminins, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Alors, avant de vous parler de ces trois génies qui font la trilogie et qui n'ont pas été toutes féministes, au contraire. Certaines ont été très hostiles au féminisme. Mais elles ont essayé de réaliser leur particularité, leur liberté de pensée, de comportement existentiel, biographique, sexuel, comme elles ont pu, souvent contre le féminisme et parfois en l'accompagnant. Avant de vous parler donc de ces trois femmes, je vous dirai deux ou trois conclusions de mon observation sur la sexualité féminine telle que je la fais à partir de mon expérience du divan.